Bonjour aux frères et sœurs que je n'ai pas salués. Hier, j'étais venu pour parler d'une grande organisation religieuse, politico-religieuse, on devrait dire, hein, puisque j'ai pu montrer ce pape accueilli comme chef d'État, par exemple en février dernier, aux Émirats Arabes Unis, avec une grande parade militaire, etc. Il avait le drapeau de son État, du Vatican. Et par contraste, ce matin, je voudrais attirer vos regards sur la magnifique Église de Christ, qui n'est pas cette fois une organisation politico-religieuse. Alors nous allons le faire à partir de quelques images que j'ai choisies dans la Bible. Et pour commencer, nous allons introduire un petit peu pour savoir qu'est-ce que c'est que l'Église. Et nous allons chercher dans Éphésiens, on retourne à Éphésiens comme tout à l'heure, Éphésiens chapitre 1. Nous lirons les versets 7 à 10. En lui, donc il s'agit de Christ, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Nous voyons ici l'apôtre Paul rappeler ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Voyez au verset 7, en Jésus-Christ nous avons été rachetés, pardonnés et nous sommes au bénéfice des richesses de la grâce de Dieu. Dieu nous a aussi donné la capacité de comprendre ce qu'il fait par sa parole et par l'illumination du Saint-Esprit. En Jésus-Christ, il nous révèle le mystère de sa volonté. Versets 9 et 10, le grand but final vers lequel tend l'histoire du monde. Le plein achèvement de la création qui est de réunir toutes choses en Christ, les visibles et les invisibles. Frères, pour bien comprendre ce qu'est l'Église, il faut d'abord la situer dans ce grand plan divin. Et nous savons que ce plan, Dieu le portait dans son cœur dès les origines du monde. On devrait dire même avant les origines du monde. Je pense à cette parole de l'apôtre Pierre qui dit « Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Et Pierre ajoute, à propos de cet agneau, il dit « prédestiné », on pourrait traduire aussi « préconnu », avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, avec la proclamation de l'Évangile, nous découvrons que Dieu avait formé le dessein de nous donner son Fils unique comme Sauveur avant même la création du monde. Et avec la proclamation de l'Évangile, Dieu nous donne aussi de connaître la finalité de son plan. Cette finalité, nous la trouvons exposée dans différents passages des Écritures. J'en choisirai un avec vous, ça sera 1 Corinthiens au chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, c'est ce beau chapitre, ce merveilleux chapitre sur la résurrection, mais là je vais me contenter des versets 20 à 28. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite, viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Nous trouvons ici la révélation du plan que Dieu avait conçu depuis les origines. Le but ultime de Dieu, c'est l'établissement de sa domination universelle, c'est-à-dire l'établissement du royaume de Dieu en Jésus-Christ. Ainsi, avec la proclamation de l'Évangile, Dieu nous donne à découvrir ce qu'il fait depuis le commencement jusqu'à la fin. Depuis le moment où l'agneau a été prédestiné, préconnu, jusqu'au jour où Dieu sera tout en tous. Quel privilège pour nous. Ce n'est pas ici une belle théorie religieuse. Ce sont de glorieuses réalités spirituelles. Alors maintenant, quelle place l'Église occupe-t-elle dans ce grand plan divin? Dans le plan de Dieu, la période de l'Église apparaît comme un temps de rassemblement qui a commencé le jour de la Pentecôte et qui s'achèvera lorsque le Seigneur viendra prendre les siens avec lui. Le mot « Église », littéralement « assemblée par convocation », c'est l'assemblée de tous ceux qui ont cru en Christ, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent sa divinité, qui ont foi en son œuvre de rédemption. L'Église est l'assemblée de tous ceux qui ont été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu, Colossiens 1:13, vous connaissez. Le Nouveau Testament présente plusieurs images de l'Église qui peuvent nous aider à comprendre la véritable nature de l'Église, ainsi que la relation des croyants avec Jésus-Christ, leur Sauveur et Seigneur. Et c'est toujours dans ce sens que je vais présenter mes images. À chaque fois, j'essaierai de le faire ressortir dans ces images le rôle de Christ et la relation des rachetés de Christ dans cette image et dans ce rôle. Je prends une première image. L'Église, édifice, c'est-à-dire vu comme un bâtiment. Nous cherchons dans Éphésiens, au chapitre 2, le verset 20, les versets 20 à 22. Donc c'est ma première image. Éphésiens, chapitre 2, versets 20 à 22. Éphésiens 2, verset 20. Vous voyez les premiers mots, vous avez été édifiés. Hein? Donc il s'agit d'un édifice. Vous avez été édifiés, dit Paul, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. Alors si nous situons ce passage dans son contexte, tout d'abord, nous voyons que Paul explique que les Juifs et les païens qui croient forment un seul peuple, la famille de Dieu, et tous deviennent le temple de l'Esprit. Et nous avons l'image d'une construction qui s'élève, construction dans laquelle d'abord Christ est la pierre principale, celle de l'angle, verset 20, la pierre angulaire, la pierre qui joue un rôle fondamental dans la stabilité de la construction. Dans cette construction, les apôtres et les prophètes constituent le fondement, les fondations en quelque sorte de la construction, verset 20. Et au début du verset 20, lorsque Paul dit « Vous avez été édifiés », on voit que les croyants sont intégrés à la construction pour former un temple saint. Je peux reprendre aussi une image de l'apôtre Pierre qui dit, qui compare les croyants à des pierres vivantes afin de former une maison spirituelle. Mais il nous faut nous souvenir que Jésus a dit à Pierre, « Je bâtirai mon église. » Il n'a pas dit à Pierre, « Tu bâtiras mon église. » Ou « Vous, les apôtres, vous bâtirez mon église. » C'est Christ lui-même qui rassemble les pierres pour édifier son église. Pierre qu'il va extraire de la carrière, entre guillemets, du monde, des pierres qu'il taille, des pierres qu'il dispose chacune bien à sa place, les ajustant parfaitement les unes aux autres. C'est ce que nous trouvons au verset 21 quand il est écrit « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » L'Église est donc une construction magnifique et indestructible. C'est Christ lui-même qui rassemble. Les évangiles nous montrent que Jésus a appelé les apôtres à le suivre. Tous les croyants de tous les âges sont ceux qui ont répondu à l'appel de Christ à venir à lui en recevant le témoignage des apôtres consigné dans le Nouveau Testament. Je rappelle juste cette parole que j'avais citée à la fin de ma présentation hier. Jésus a dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » L'incorporation des pécheurs rachetés à l'Église comporte en fait un triple aspect. Il y a d'abord l'appel souverain de Dieu. Il y a aussi la réponse du croyant par sa repentance et par sa foi en Christ, en sa personne et en son œuvre. Et enfin, il y a l'œuvre de régénération du Saint-Esprit. Nous constatons ici une triple contribution de Dieu Père, Fils et Esprit à la formation de l'Église. Alors je voudrais conclure cette première image d'Église vue comme un édifice, mais je voudrais auparavant ajouter une considération sur ce qu'on appelle l'unité de l'Église. Vous savez qu'on insiste beaucoup actuellement sur l'unité de l'Église. Nous avons vu que c'est Christ lui-même qui bâtit son Église. Par nature, donc, cette Église, je dirais même par essence, elle est parfaitement unie en elle-même. Cette unité n'a rien de commun avec les décisions prises par différents groupes de chrétiens pour réaliser une coalition en vue d'atteindre certains buts. Les compromis œcuméniques n'ont pas d'autre résultat que de mettre ensemble des croyants et des faux croyants, et sous couvert d'amour fraternel. En réalité, nous l'avons vu, tous les vrais croyants, en recevant le Saint-Esprit, sont automatiquement unis entre eux par leur appartenance à Christ. L'unité des chrétiens est l'œuvre de Dieu. Les hommes ne peuvent rien y changer. Alors je conclue sur cette première image. L'Église vue comme un édifice, je dirais, l'Église est une construction de Dieu, le temple de Dieu. Elle est l'œuvre parfaite de Dieu, en Christ, par l'Esprit Saint. Elle n'est pas l'œuvre des hommes. J'en viens à une deuxième image maintenant, qui sera l'Église sacerdoce, c'est-à-dire l'Église vue comme un peuple de sacrificateurs ou de prêtres. Dans cette image, l'Église apparaît comme un peuple racheté, purifié, sanctifié et rendu apte par Dieu à se tenir en sa présence pour le servir. Et nous prendrons pour cela un extrait de la première épître de Pierre au chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Tout d'abord, les versets 4 et 5. 1 Pierre 2, versets 4 Pierre écrit aux chrétiens d'Asie, en parlant de Jésus, en parlant de Dieu. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, voyez, c'est le passage que je citais précédemment quand on parlait de l'Église édifice. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Et là, nous lisons, au verset 5, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et puis vous allez au verset 9, un peu plus loin, où Pierre dit, vous au contraire. Alors dans le contexte, pourquoi au contraire? C'est par opposition aux Juifs incrédules qui ont rejeté Jésus. Donc vous, vous êtes une race élue. Et vous voyez à nouveau, il est souligné, un sacerdoce royal. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. L'Église, donc, c'est un saint sacerdoce, verset 5, et verset 9, c'est même dit un sacerdoce royal. Dans cette image, les croyants sont des sacrificateurs. Ils forment un saint sacerdoce ou un sacerdoce royal, et Jésus, évidemment, et le grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Hébreux 4, 14, et qui a été établi sur la maison de Dieu, Hébreux 10, 21. Les croyants forment un saint sacerdoce. Nous savons que dans l'Ancienne Alliance, le souverain sacrificateur et les sacrificateurs étaient les seuls à pouvoir officier dans le temple. Ils préfiguraient ainsi le sacerdoce que Dieu établirait dans la Nouvelle Alliance. À cette époque, selon la volonté de Dieu, seuls les membres de la tribu de Lévi pouvaient occuper cette fonction. Mais actuellement, dans l'Église, absolument tous les croyants, quelle que soit leur origine, juive ou non-juive, deviennent des sacrificateurs. Ils offrent des sacrifices spirituels et non plus des sacrifices d'animaux comme dans l'Ancienne Alliance. Ils rendent un culte, ainsi que Jésus l'a nommé lui-même, un culte en esprit et en vérité. En quoi consiste ce culte? L'apôtre Paul déclare que Dieu nous a prédestinés à servir à la louange de sa gloire. Là, je cite simplement, mais je n'ai pas obligé d'aller voir. Dans Éphésiens, il est précisé que Dieu nous a prédestinés à servir à la louange de sa gloire, et Éphésiens 1:6 dit à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Nous voyons aussi qu'en Romains 12:1, Paul exhorte les croyants à offrir leur corps, je cite là, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Voilà le culte que nous voulons rendre à Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus de temple, il n'y a pas de lieu sacré, proprement dit, pour rendre un culte à Dieu, mais le corps de chaque croyant devient une demeure vivante du Dieu Saint qui vient y habiter par son Saint-Esprit. Je vous rappelle un passage de l'apôtre Paul, qu'il est bon de savoir par cœur. Là, Emmanuel signalait tout à l'heure qu'il est bien d'apprendre des passages. C'est un passage très court. J'ai eu à cœur de l'apprendre aussi. Donc c'est 1 Corinthiens 6, 19, 20. Vous connaissez, mais je rappelle. « Ne savez-vous pas, dit Paul, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Ainsi, cette image de l'Église sacerdoce doit nous aider à prendre toujours plus conscience de ce que Dieu a fait de nous en Jésus-Christ et à bien réaliser ce que représente une vie consacrée totalement à Dieu, sachant que l'Esprit de Dieu habite en nous. Alors je voudrais faire encore une brève parenthèse avant de conclure sur cette image. C'est à propos de cette fameuse distinction à laquelle j'ai fait allusion hier entre clergé et laïc. Vous savez que dans certaines églises traditionnelles, on distingue dans le peuple de Dieu deux catégories de croyants, les prêtres et les laïcs. Mais cette distinction ne respecte pas l'enseignement du Nouveau Testament qui déclare, comme nous l'avons vu, que ceux qui ont été rachetés par le sang de Christ sont tous devenus par la volonté de Dieu, prêtres ou sacrificateurs, destinés à le servir et à célébrer la gloire de sa grâce. Alors voici comment je résumerai l'image de l'Église vue comme un sacerdoce. Je dirais dans l'Église, les croyants forment un peuple saint. Un peuple de prêtres ou de sacrificateurs sanctifiés par Christ et appelés à vivre saintement. Tous les rachetés sans exception entrent au service de Dieu. Ma troisième et dernière image. C'est une image peut-être plus classique, c'est l'image de l'Église vue comme un troupeau. Dans cette image, l'Église apparaît comme un peuple rassemblé par Jésus, dirigé, gardé et conduit par le bon berger. Alors on ira au chapitre 10 de Jean, de l'Évangile de Jean, et puis vous resterez à ce chapitre parce que j'irai d'un verset à l'autre, pas forcément d'une manière suivie. Donc, Évangile de Jean, chapitre 10. On commencera au verset 11. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 11. C'est un passage très imagé, évidemment. « Je suis le bon berger, dit Jésus. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Passez tout de suite au verset 14 et 15. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. » Alors nous restons sur ce chapitre, ouvert. Dans l'église troupeau, nous voyons que Jésus est le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Et les croyants sont les brebis, brebis errantes, on va dire, qui sont retournées vers le berger et gardien de leur âme. Ça, je reprends un passage de la première épître de Pierre, de 25, quand il dit que nous étions comme des brebis errantes, qui sont retournées vers le berger et gardien de leur âme. Et d'ailleurs, Pierre fait en fait allusion à Ésaïe 53, 6, qui dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. » Donc dans notre chapitre 10 de l'Évangile de Jean, au verset 7, si vous jetez un coup d'œil, vous voyez que Jésus se présente aussi comme la porte des brebis. Hein, vous voyez, verset 7. Puis aussi au verset 9, il dit « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Comme c'est merveilleux. J'attire juste votre attention sur ce passage obligé, parce que c'est quand même écrit « Si quelqu'un entre par moi. » Ceci, ce conditionnel. Passage obligé qui conduit à la liberté, à la vie éternelle. Les brebis sont donc des hommes qui ont entendu la voix de Jésus, leur sauveur, leur berger, et qui ont cru en lui. Ils reçoivent de Jésus la vie éternelle et leur sécurité est parfaite. Ainsi qu'il est dit un peu plus loin, dans notre chapitre 10, nous lisons 27 à 30 maintenant, au sujet de la sécurité parfaite. Jean 10, verset 27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » J'attire aussi votre attention sur ce redoublement, c'est par deux fois Jésus, personne ne. Cela signifie que les rachetés sont de manière définitive délivrés de la puissance des ténèbres.
Amen.
Merveilleux. Au verset 16 de notre chapitre 10, voyez, lisons le verset 16, Jésus dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » La volonté de Dieu est d'offrir son salut non seulement aux Juifs, puisque Jésus parlait à des Juifs à cette époque-là, mais aussi aux non-Juifs, les autres brebis, pour former un seul peuple. Un seul troupeau, sous la conduite du bon berger. Et là, je voudrais aussi compléter cette image. En parlant du rôle des anciens dans l'Église, c'est-à-dire en parlant des anciens vus dans leur rôle de berger. Nous savons que comme souverain berger, Jésus est le chef de toute l'Église. Mais depuis son ascension, il siège à la droite du Père dans les lieux très hauts et en attendant son retour, Jésus confie la surveillance de son troupeau à certains de ses rachetés, auxquels il donne le rôle de berger. J'aimerais bien qu'on prenne un passage dans Actes. Ce sera le passage Actes 20, à partir du verset 28 jusqu'à 31. Actes 20. À partir du verset 28. Juste au verset 17, on voit le contexte. Nous sommes à la fin du troisième voyage missionnaire de Paul, qui est en train de voyager pour retourner à Jérusalem. Il revisite les églises qu'il avait vues auparavant. De passage à Milet, il fait venir, il fait appeler les anciens d'Éphèse. Donc c'est ce qu'il expliquait au verset 17. Et puis, donc, il fait des recommandations à ces anciens. Il leur dit, Paul, donc acte 20, 28, voici la recommandation, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, c'est-à-dire surveillant, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais, dit Paul, qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, recommande l'apôtre Paul. D'après ce passage, nous voyons que la responsabilité des anciens est double. Ils doivent d'abord veiller sur eux-mêmes, c'est ce que nous avons lu au verset 28, et aussi sur les membres de l'Église. Et pour bien faire prendre conscience aux anciens de leur grande responsabilité, Paul leur rappelle le prix payé par Dieu pour le salut des rachetés, c'est-à-dire le sang de son propre fils. C'est ce que nous avons lu au verset 28, quand Paul dit pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Alors maintenant, je voudrais conclure sur mon image d'église vue comme un troupeau, en résumant ainsi. L'église est le rassemblement des hommes égarés loin de Dieu, qui ont trouvé en Jésus-Christ le Sauveur et le gardien de leur âme. Le salut est offert à tous les hommes sans distinction, juifs ou non-juifs. Et maintenant, je voudrais conclure d'une manière concrète et pratique. Eh bien, pour qu'est-ce qu'on peut retenir de ces trois images d'une manière concrète et pratique? Je vais le faire sous forme de, en reprenant les trois images, mais sous forme d'une petite exhortation, et puis nous terminerons par un cantique. Alors, la première image, souvenez-vous, je parlais de l'église vue comme un édifice. Alors, je dirais, réjouissons-nous en contemplant cette église édifice. Louons Dieu, remercions-le chaque jour, à chaque instant, pour l'œuvre extraordinaire accomplie en faveur de ces créatures pécheresses et perdues. Que Christ, la pierre angulaire, soit réellement le fondement de notre vie. Ensuite, nous avons parlé de l'Église vue comme un peuple de sacrificateurs ou de prêtres. Et je dirais, comme sacrificateurs de la nouvelle alliance, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, car nous avons un grand souverain sacrificateur qui intercède pour nous, Jésus-Christ notre Sauveur. Et puisque Dieu nous a purifiés et appelé à le servir dans son Saint-Temple, offrons-lui chaque jour nos sacrifices de reconnaissance et veillons à marcher conformément à notre dignité de serviteur du Dieu qui est saint et juste. Enfin, pour conclure l'image troupeau, l'image de l'Église vue comme un troupeau, je dirais, comme brebis du troupeau de Dieu, laissons-nous conduire docilement, en écoutant la voix de notre bon berger. Souvenons-nous chaque jour de la grande sécurité dans laquelle nous nous trouvons, étant gardés par sa main toute puissante. Nous pouvons ainsi être toujours joyeux et reconnaissants.